15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Tous les jours, il sort de consultation avec sa petite mallette et nous rejoint dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous n'avez même pas de mallette en plus, c'est un sac
non,
à dos.
Elle est dans le coffre.
On vous imaginait comme un vieux médecin de campagne. Avec
non mais la mallette est dans le coffre quand
ah,
même.
Ah ça hein, va, oui, ça oui. va, c'est une vraie mallette alors.
Oui, oui, c'est un peu bizarre si je viens avec ici, donc on l'arrange.
Très bien, merci Jimmy. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la fatigue. On est tous évidemment fatigués un jour ou l'autre de trop travailler, de vivre à 100 à l'heure. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui sont fatigués d'être malades. Alors dans cette émission, on va évidemment pas parler de comment guérir toutes les maladies qui peuvent engendrer de la fatigue. Il y en a beaucoup trop. Mais on va vous apprendre à surmonter un peu la douleur, apprendre à la mettre de côté, par exemple, avec des astuces simples. Tout ça, ce sera avec notre invité. Nous recevrons Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement. Il est aussi l'auteur du livre Fatigue. Et si on apprenait vraiment à se reposer chez Flammarion. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livre son bon conseil du jour. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de l'épidémie de coronavirus, il a décidé de nous expliquer pourquoi certains éprouvent le besoin irrépressible de faire des provisions, de dévaliser les rayons de pâte ou de papier toilette dans les supermarchés. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va s'arrêter sur le syndrome des jambes sans repos. Savez-vous à quoi sont dus ces picotements et ce besoin de mouvement des jambes, surtout la nuit? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des peines de cœur chez nos ados. Comment les aider à surmonter ça? Elle nous dira tout. Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, comme tous les jours, nous vous proposons un point concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Alors d'abord, les chiffres, en tout cas les derniers dont on dispose. Le ministère de la Santé fait état de 1191 cas confirmés sur notre territoire. 21 décès sont également à déplorer. La France est donc le deuxième pays le plus touché en Europe, derrière l'Italie. Et si pour le moment nous sommes toujours en phase 2 de l'épidémie, pour ralentir sa progression, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier de nouvelles mesures, notamment l'interdiction des événements regroupant plus de 1000 personnes. On l'écoute.
Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours aux transports en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation. J'appelle tous les Français à respecter et appliquer les gestes barrières que nous diffusons depuis maintenant plusieurs semaines. Lavez-vous les mains très régulièrement. Toussez dans votre coude et non dans votre main. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique. Et enfin, ne vous serrez plus les mains ou ne vous embrassez plus. Ce sont les petits gestes qui participent à la plus grande protection et qui nous permettront de ralentir efficacement la propagation du virus.
Jimmy, alors interdire les regroupements de plus de 1000 personnes, on sent qu'on passe quand même un degré au-dessus dans les mesures en France, là, mais vous en pensez quoi?
Alors, il faut quand même rassurer les gens. C'est pas parce qu'on interdit les regroupements de plus de 1000 personnes, avant c'était 5000, maintenant c'est 1000, qu'il faut penser qu'il y a une catastrophe. Même quand on passera au stade 3, ça veut pas dire que le virus sera plus virulent ou plus méchant. C'est juste pour, c'est une des mesures pour permettre d'étaler l'épidémie dans le temps et d'éviter d'avoir un afflux massif, brutal et ingérable de malades dans les établissements qui seront ensuite dépassés. On a souvent un peu, on s'est moqué un peu du gouvernement en disant mais oh là, ils nous disent de nous laver les mains, des gestes simples qu'on connaît tous. Pour autant, il y a un sondage IFOP qui est paru là tout récemment qui montre que les risques pris par les Français malgré le coronavirus sont toujours importants. 91% d'entre eux continuent à faire la bise aux gens qu'ils connaissent. 85% leur serrent la main. 75% continuent à serrer la main à des inconnus. Et 40% font la bise à des inconnus.
Bon, donc ça rentre pas, quoi.
Donc ça rentre pas. Les gestes barrières, il faut les utiliser. On ne pourra pas tout attendre du gouvernement. Ces gestes simples peuvent vraiment limiter l'épidémie.
Merci beaucoup, Jimmy. Allez, votre émission Sans Rendez-vous reprend son cours habituel. Et des questions, malgré la psychose ambiante, vous vous en posez toujours aussi sur des sujets plus courants. On écoute la question de Marie-Lou.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle parce que je me suis brûlée avec mon fer à repasser. Alors j'ai mis sous l'eau froide. Ma grand-mère m'a dit par téléphone de mettre du beurre dessus. Alors je me demandais si ça avait vraiment un intérêt.
Alors Jimmy, des remèdes de grand-mère. En plus là, c'est vraiment sa grand-mère qui lui a donné cette astuce. Il y en a contre à peu près tous les petits bobos. Là, le beurre sur une brûlure, c'est une bonne idée ou pas?
Non, je pense que le beurre, c'est bien uniquement sur les tartines le matin.
Oui, c'est bon aussi. Ouais.
Même chose pour les autres remèdes qui peuvent. En fait, le beurre, c'est parce qu'il serait frais, il soulagerait la douleur.
Mais c'est gras aussi, je me
dis.
C'est
gras, mais il y a un risque de surinfection. Donc c'est pas adapté. la même façon qu'on ne met pas de pommes de terre ou du dentifrice.
Oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
C'est des mesures qui sont dangereuses. Le dentifrice, au contraire, entraîne des réactions inflammatoires locales. Éventuellement, si vous avez que du miel, vous pouvez en mettre parce que ça stimule la vascularisation et la multiplication des cellules. Donc pourquoi pas ? Mais le beurre, non, c'est seulement sur les tartines.
Très bien, le beurre sur les tartines. Alors, par contre, si on se brûle, la vraie marche à suivre par rapport à cet accident, c'est quoi finalement ? Alors, elle a dit qu'elle avait mis sous l'eau froide, ça c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut faire pipi sur une brûlure à votre avis ?
Non, jamais de la vie.
Jamais.
On fait pipi dans les toilettes, c'est tout.
Exactement. Certains le font dans le désert, les militaires, pour refroidir la plaie. Donc l'urine peut servir.
C'est chaud le pipi pourtant.
Mais oui, mais quand on est dans le désert qui fait 40 degrés, l'urine reste un peu plus fraîche. Donc on ne met pas non plus d'urine sur une brûlure, ni sur l'urticaire. Il faut rincer pendant 10 à 15 minutes. Pas de l'eau glacée, ça ne sert à rien, ça va être douloureux. Une eau tiède peut suffire. Pas la peine de mettre un robinet d'eau froide à fond les ballons, il faut juste un petit filet suffit.
Mais ça fait mal en plus si on est brûlé de mettre trop fort le jet. Hein, donc
exactement, et puis on peut mettre une pommade cicatrisante et tout dépend du degré de gravité de la brûlure, gravité de la brûlure. Et en fonction, il faut consulter ou pas.
Et justement, quand on consulte quand enfin, c'est quoi le degré de gravité qu'on peut évaluer comme ça tout seul?
Le premier degré, c'est superficiel, c'est le coup de soleil. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Le deuxième degré superficiel, c'est lorsque vous avez des petites flictaines, des petites bulles. Dans ces cas-là, il faut simplement mettre un corps gras, une pommade à la pharmacie type Flamazine, Biafine, peut faire l'affaire. Lorsqu'il n'y a plus de bulles et qu'il y a une peau cartonnée et que vous n'avez pas mal ou que vous avez des lésions au niveau génital ou une lésion
très
étendue,
inquiétant.
Et chez l'enfant, évidemment qu'il faut consulter, sinon en quelques jours, ça cicatrise très bien.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Marie-Lou qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi en cette période de psychose, certains ont des réactions irrationnelles. Ce besoin par exemple irrépressible de faire des provisions. Et puis, on accueillera aussi notre invité, c'est Léonard Anthony, il est praticien en hypnose. Si vous souffrez d'une maladie chronique et qui vous fatigue énormément, vous allez voir, il va nous donner plein de conseils pour combattre ça. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors nous passons à présent au bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, en cette période de psychose, même si l'inquiétude est compréhensible, vous allez aujourd'hui nous expliquer pourquoi certains dévalisent les rayons des supermarchés. Autant ici on peut comprendre, même si ce n'est pas nécessaire de le faire, que des Français fassent quelques provisions de pâtes et de riz. Mais dans d'autres pays, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
Oui, regardez ce qui se passe notamment en Australie où il y a une pénurie de papier toilette dans les supermarchés avec des gens qui se battent dans les supermarchés pour avoir le dernier rouleau.
C'est un lapsus révélateur.
On a les mêmes scènes notamment en Angleterre et de façon un peu surprenante, deux hommes ont été arrêtés à Hong Kong, soupçonnés d'avoir braqué un livreur pour lui dérober des centaines de rouleaux de papier toilette, un bien qui est menacé de pénurie depuis l'apparition du coronavirus. Le montant d'un butin de 120 euros, rassurez-vous Mélanie, a été retrouvé.
Ah, je suis rassurée. Alors, quel est ce phénomène ? Alors, pourquoi ? Enfin, la survie de notre espèce, elle dépend pas quand même de papier toilette enfin hein ?
Non, c'est voilà. Alors, même si c'est vrai que épidémie ou pas, on peut comprendre que se retrouver aux toilettes avec la dernière feuille de papier hygiénique, ça peut être un peu angoissant, mais ça ne suffit pas à expliquer cette panique. Ces achats frénétiques seraient dus à une anxiété sociale qu'on peut rapporter un syndrome, le FOMO.
Alors le FOMO, ça veut dire quoi précisément ?
Alors c'est le Fear or Missing Out, ou en français la peur de rater quelque chose. Alors ce syndrome qui nous pousse à suivre le comportement des autres est notamment alimenté par les multiples images de supermarchés vides ou de caddies remplis de papier toilette sur les réseaux sociaux. Mélanie, je vous ai croisé le week-end dernier dans les supermarchés.
Je savais qu'il allait faire un truc comme ça.
Avec
oui, bien
plein
sûr.
De rouleaux de papier toilette. Ouais, et au lieu de me dire que vous avez peut-être des problèmes intestinaux, que vous avez un transit qui marche peut-être un peu trop bien, je me dis que si Mélanie Gomez, elle achète plein de papier toilette,
peut-être
qu'il y a un problème et qu'il faudrait que je fasse la même chose. Et donc, je mime ce comportement. Ah. Et évidemment, ce syndrome a été amplifié avec l'avènement des réseaux sociaux, même s'il existe depuis toujours des exemples tout simples. On les connaît, vous avez un plat de petit four lors d'un mariage, on ne sait jamais lequel choisir.
Moi, je les goûte tous comme ça.
En général, on en prend un, on se dit, mais est-ce que je prends le meilleur ? En général, on met une demi-heure à choisir le petit four parce qu'on a peur de rater le meilleur petit four. Même chose lorsque vous devez acheter une télévision, vous en avez 200 devant vous et on ne sait pas laquelle acheter de peur de faire le mauvais choix. C'est ce syndrome qu'on peut retrouver actuellement.
Le FOMO. Alors, est-ce que certains facteurs peuvent amplifier justement ce syndrome ?
Oui, de vraies études se sont intéressées à ce syndrome et on s'est rendu compte que le FOMO était plus important en fin de journée et en fin de semaine. De plus, c'est le sentiment d'insécurité, qu'on peut expliquer notamment avec le coronavirus, majeure ce syndrome. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de papier toilette, il existe un moyen simple et plutôt hygiénique, c'est la douchette. Ça coûte 30 euros dans les rayons de bricolage. C'est beaucoup plus hygiénique que le papier toilette. Et puis, si jamais vous voulez lutter contre ce FOMO, il y a un autre syndrome qui s'appelle le JOMO, le Joy of Missing Out. c'est la joie de manquer de quelque chose. Mais là, on en reparlera une autre fois.
Super, j'ai hâte déjà que vous parliez du Jomo. Merci Dr Jimmy Mohamed pour ce point plus sociétal aujourd'hui, mais qui en dit long sur notre psychisme. Merci beaucoup. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement. Il est aussi l'auteur du livre « Fatigue » et « Si on apprenait vraiment à se reposer » chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Léonard Anthony.
Bonjour Mélanie.
On a beaucoup parlé de la fatigue en général lors de nos précédentes émissions. Vous êtes déjà venu au moins deux fois sur ce plateau, si
oui,
je ne me trompe pas.
Grand plaisir.
C'est ça, et c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Alors cette fois-ci, on va parler de la fatigue lorsqu'on est malade. Ça touche beaucoup de personnes, ça, cette fatigue due à une maladie bon, chronique en général, ou pas toujours d'ailleurs. Mais...
Alors la question est intéressante parce que j'en ai parlé avec plusieurs médecins qui m'ont dit que c'est grosso modo entre 15 et 20% des motifs de consultation.
Ah oui.
Je suis fatigué. Et en effet, c'est un sujet sérieux quand il en vient de notre santé physique ou mentale. C'est que si vous ressentez de manière régulière une fatigue, c'est important d'en parler avec votre médecin traitant parce que ça peut être un signal important d'une maladie grave. On pense en particulier à des cancers. Mais c'est aussi le symptôme de maladies chroniques. Alors des choses extrêmement simples et banales, je pense à l'asthme. 4 millions de personnes souffrent d'asthme en France. Et c'est une maladie qui fatigue beaucoup. Mais jusqu'aux maladies rhumatismales, cardiaques... Donc, il est important qu'il y ait une prise en charge qui soit faite.
Jimmy ?
Et dans ces cas-là, on parle de quel type de fatigue ? La fatigue plutôt physique liée à la maladie ? Il y a certaines maladies qui fatiguent authentiquement ou une maladie aussi un peu, une fatigue un peu psychique ou mentale ?
Oui, c'est un point clé. Je pense que c'est les deux parce que la première des choses, donc j'évoquais les maladies physiques, mais si vous êtes atteint de dépression, qui est qualifiée comme une maladie, eh bien, il y a une fatigue qui est associée à cela.
C'est une maladie mentale, mais qui fatigue physiquement, c'est ça ?
Qui fatigue physiquement et mentalement.
Les deux.
C'est-à-dire, un des premiers facteurs qu'on note, c'est que les gens n'ont plus goût à vivre, se retrouvent enfermés, se sclérosent dans leurs mouvements. Et c'est ça peut-être le symptôme le plus important de la fatigue, c'est qu'on commence
à... La perte d'envie.
Voilà, on commence à avoir une perte d'envie, on perd toute notion de mouvement. On arrête de vivre. Et ça, c'est un sujet important.
Et parfois, devoir penser à ses médicaments, de les prendre tous les jours, parce que quand on a une maladie chronique, ça peut être ça aussi. Ça aussi, c'est fatigant de se dire « Oh, je pars en vacances, il faut que je prévoie de passer à la pharmacie. » Ça, c'est des choses fatigantes.
Ah, ben alors là, vous mettez le doigt sur une étude qui a regardé ça de près. On estime que les malades ont une fatigue associée, donc on va parler de fatigue dérivée associée, liée au traitement, aussi à l'ensemble des soins. Quand on a des problèmes de dos, il faut aller voir le kiné, il faut continuer à aller voir des spécialistes, on fait des IRM à répétition. Donc tout le parcours de soins est épuisant.
Merci Léonard, on ne fait que commencer cet entretien, bien sûr on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Comment expliquer que la maladie attaque aussi notre pensée, même si c'est une maladie uniquement physique ? Comment arrêter de ne voir que cette mauvaise herbe dans son jardin ? Et vous verrez que pour être moins fatigué, cela passe bien souvent par l'acceptation de son état. Notre invité lui aussi est atteint d'une maladie chronique, il est passé par là et il va nous expliquer tout ça. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement et il est aussi l'auteur du livre « Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer » chez Flammarion. Léonard Anthony, dans votre livre, vous dites que lorsqu'on est atteint par une maladie, de plus quand elle est chronique hein, en général, même si elle est que physique, elle attaque vraiment la pensée. Comment elle s'y prend ? Est-ce que c'est parce que, par exemple, elle peut commencer par nous empêcher de dormir, ça on peut comprendre que ça fatigue.
Oui, pour être très clair, moi j'ai eu, comme je le disais dans mon livre, je suis atteint d'une maladie chronique inflammatoire et cette nuit j'ai pas pu dormir à cause de la douleur. Pratiquement j'ai dû dormir une heure et demie. Donc je vous raconterai après
vous
comment j'ai
fatigué,
fait.
Vous êtes fatigué, j'imagine, non même
pas trop,
vous n'avez pas l'air
pas trop,
content.
Non, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, c'est parce que naturellement quand on ne dort pas, on est fatigué. Mais il y a des choses qu'on peut faire.
Vous nous direz ça après, effectivement.
Et le point qui est associé à ça, et pour vous dire les choses avec beaucoup de sincérité, c'est à une époque de ma vie, pendant longtemps, je ne savais pas quelle était cette maladie-là, on s'épuise littéralement à vouloir aller mieux. Et ça, c'est un sujet de fond, c'est qu'on veut tous retrouver notre vie d'avant, quand on avait 25 ans et qu'on ne souffrait pas. Et quand la maladie chronique s'installe et qu'on voit qu'en réalité, elle ne part pas, alors des fois on sait pourquoi, des fois on ne sait pas pourquoi. La médecine nous aide à explorer, mais ne fait pas toujours des miracles. Eh bien... il y a une sensation qui est terrible, qui est celle de s'éroder, un peu comme la roche, vous voyez, qui est attaquée par la mer et l'océan, on finit par s'éroder. Et pour moi, les choses ont basculé un jour, alors je sais que ça va paraître un peu fou et peut-être difficile à entendre pour certaines personnes, les choses ont basculé le jour où j'ai décidé de ne plus aller mieux.
Ah bon ?
J'ai compris que je ne guérirais pas, mais que je pouvais, un, être soulagé par un certain nombre de traitements. Certains autres traitements, j'ai discuté avec l'équipe médicale qui m'a pris en charge, et on a eu le point de se dire... ce n'est pas forcément nécessaire de le mettre en place aujourd'hui parce qu'on analyse le bénéfice poids, Et les traitements engendraient de la fatigue supplémentaire, donc il a fallu réfléchir et travailler sur ça, ce qui m'a emmené à mon propre engagement dans le cadre de la maladie.
Jimmy ?
Parce que, effectivement, moi je vois des fois des patients qui luttent contre la douleur, qui du coup sont angoissés, et ça participe à leur fatigue. Et vous dites quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il faut remercier sa maladie quand on a une pathologie chronique ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept, parce que ça paraît un peu déroutant.
Je sais, je suis bien conscient. Je vais vous citer une phrase d'un astrophysicien qui est Stephen Hawking, qui disait « Il vaudrait mieux que les handicapés se demandent ce qu'il est possible de faire plutôt que de se dire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. » C'est la même chose pour nous qui souffrons de maladies chroniques. Pendant longtemps, moi, je me disais « Voilà, ben, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. » Et un jour, j'ai commencé à écrire ce livre. Mais je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas été confronté à cette fatigue-là qui est liée à la maladie. Et c'est là où j'ai commencé à remercier la maladie parce que d'avoir changé mon rapport à la fatigue, j'y ai vu une véritable possibilité. On devient un sujet existentiel, c'est-à-dire de considérer la fatigue comme une disposition et pas comme quelque chose à combattre, a changé ma façon de vivre littéralement, m'a permis de devenir plus juste dans mes actes, dans mes gestes et de revenir à une sincérité. Et c'est là où c'est fondamental, c'est-à-dire que dès lors qu'on ne lutte plus contre la douleur, dès lors qu'on l'intègre dans sa vie, dès lors qu'on dit « bon ben voilà, ben, tu fais partie de ma vie », c'est comme ça.
Vous lui parlez à votre douleur, en fait,
oui,
c'est
moi
ça ?
Oui, ça m'arrive régulièrement. Mm. Même de lui dire « c'est bon, je t'ai entendu ». Parce qu'il ne faut jamais oublier, la douleur, c'est un signal nerveux.
Donc, vous avez encore mal, parfois, cette nuit, vous avez eu mal, c'est
ben
ce que
oui,
vous dites.
J'ai eu mal cette nuit, donc là, je sais que ça ne se terminera pas, mais le simple fait, parfois, de dire « ben, ça y est, c'est bon, je t'ai entendu », va permettre à la douleur de diminuer significativement. C'est un des
éléments. Et lui donner une place plus petite aussi, parce que vous dites finalement, oui, c'est comme une mauvaise herbe dans son jardin, on ne voit plus qu'elle, quoi. C'est ça, il faut.
Oui, c'est
elle
ce
est
que...
là, on l'accepte, mais on arrête de focaliser, c'est ça.
Exactement. L'hypnose nous aide à prendre considération de la notion de focalisation, et c'est légitime encore une fois. Vous avez une migraine, à un moment donné, si elle s'installe et elle dure, vous devenez migraineux, vous ne pensez plus qu'à ça. Mm. Donc le chemin, c'est de se dire comment j'intègre la migraine dans ma vie et que ma vie ne devienne pas la migraine.
Léonard Anthony, nous allons poursuivre cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, vous êtes fatigué car vous souffrez d'une maladie chronique, par exemple, qui vous cause beaucoup de tracas et de douleurs. Ici, on ne va pas vous parler de votre maladie en particulier, mais de comment mieux vivre avec, faire en sorte qu'elle arrête au moins un peu de vous fatiguer. L'hypnose, la méditation notamment, peuvent vraiment vous aider à apaiser certains de vos problèmes. On va vous détailler tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement. Alors Léonard Anthony, parfois quand on est malade, dès l'annonce d'une maladie par le médecin, déjà l'annonce elle-même, elle peut être source d'angoisse et donc d'épuisement. Expliquez-nous.
Oui, c'est très juste parce qu'en fait, en étudiant le processus, moi j'ai noté trois types de fatigue associées à la maladie. La première, c'est l'anticipation. Et c'est celle que vous décrivez, vous êtes chez le médecin, on vous annonce, donc tout d'un coup vous anticipez la prochaine crise. Ou même, vous commencez, par exemple, vous avez mal au dos, vous commencez à sentir un peu la douleur arriver. La plupart du temps, ça va juste être passager. Vous avez pris une mauvaise position, vous êtes assis depuis trop longtemps, mais vous allez anticiper la crise. Donc, vous allez vous épuiser à anticiper cette crise. C'est la première fatigue. La deuxième fatigue, elle est celle qui est liée aux symptômes. Donc là, évidemment, vous avez mal, vous êtes fatigué, vous prenez des traitements. Dans certains cas, les traitements vont vous fatiguer aussi. C'est une réalité. Et la troisième, c'est celle qui suit la fatigue. Vous êtes terrassé, vous avez lutté. Vous avez eu mal, vous avez dû tenir, vous avez même continué à bosser avec la douleur. Et donc là, toute cette articulation est une chaîne ininterrompue de fatigue qui se cumule et qui se substitue l'une à l'autre.
Est-ce que les médecins devraient faire un effort pour nous annoncer les choses un peu différemment aussi ? Est-ce que parfois, cette annonce-là, elle est faite aussi de manière un peu anxiogène et fatigante en elle-même ?
Alors,
sans critiquer les médecins, on en a un sur ce plateau.
Mais non, vous avez raison, non, c'est un vrai sujet.
Non, c'est un vrai sujet parce que déjà, si on prend le milieu hospitalier, les médecins courent. Ils n'arrêtent jamais de devoir voir un patient puis un autre. Eux-mêmes sont fatigués, tendus, etc. Donc, c'est une fatigue qui est transmise. Ils n'ont pas beaucoup le temps de... Et la deuxième chose, Adrien Chaboch, avec qui j'ai fait le livre, dit « Mais on n'est pas formé à ça. » Étrangement, on n'est pas formé à justement communiquer avec les patients, prendre le temps, s'installer.
Oui.
Vous avez raison. J'ai vu là ce matin un patient qui a eu un diagnostic de coronavirus aux urgences hier. Mais comme les urgences sont débordées, on l'a renvoyé chez lui gentiment, sans trop d'explications. Et donc, ce stress a nourri sa fatigue. Et là, ce matin, il était encore moins bien. De façon subjective, est-ce qu'objectivement il allait bien ? Est-ce que justement à des patients qui seraient épuisés par la maladie, on pourrait leur proposer des petits moyens simples ? Vous parlez apparemment de faire des choses qui nous procurent du plaisir ou en tout cas du désir. Qu'est-ce qu'on y aurait comme exemple ?
Alors ça, il y a une question centrale dans ce que vous venez de dire. La première chose, c'est il ne faut jamais abandonner la vie. Nous devons, quelle que soit la douleur et la pathologie que nous avons, vivre. Ça, c'est un point fondamental. Donc pour revenir à cette histoire de virus dont on entend parler en permanence, La première des choses, c'est de ne pas se laisser envahir par l'information, parce que là, il y a une autre fatigue qui se cumule, qui est la fatigue du désastre. C'est un phénomène étudié en université, où on voit que d'être pris dans un flot de mauvaises nouvelles en permanence vient nous couper l'herbe sous les pieds de vouloir vivre. Et donc, moi, par exemple, j'avais une fête à la maison il y a 15 jours, j'ai un ami qui est du corps médical qui m'a dit « Écoute, je ne peux pas venir, ça m'angoisse trop. » Donc, il y a une véritable chose à combattre qui est celle-ci. La deuxième chose, c'est d'avoir des projets. C'est-à-dire, quelle que soit la pathologie que vous avez, quelle que soit la douleur que vous avez, ou si vous avez du diabète, un problème cardiaque, etc., trouvez la mesure, le rythme qui est le vôtre. C'est-à-dire, c'est là où on écoute sa fatigue. Parce qu'on ajuste, vous savez, comme le potard sur une chanifi, on ajuste son niveau d'action, mais on est toujours en train d'agir et d'avoir des projets. Il y a un proverbe japonais qui dit que la longévité se gagne dès lors qu'on se lève le matin avec un projet et le désir de vivre qui nous habite.
Comment vous faites ? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous, cette nuit, par exemple, à cause de votre maladie chronique, vous aviez eu des douleurs qui vous ont empêché de dormir. Vous avez dormi 1h30 cette nuit. Comment vous le surmontez ça, cette nuit ? Par exemple, vous avez fait quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? De la méditation ? De l'hypnose, par exemple ? Qu'est-ce qui vous a été utile pour soulager votre douleur, par exemple ? Alors, parce que là, vous n'avez pas l'air d'avoir mal. Pourtant, vous m'avez dit, non, oui, j'ai mal.
Oui, là, j'ai mal. Mais sur une échelle de 10, je dirais 4. Vous voyez, je ne suis pas comme cette nuit. J'étais monté probablement à 7, 6, ouais. 7 dans la douleur. Je ne suis pas à 10. Là, je vais prendre des médicaments. Quand j'atteins même 8, je n'attends pas d'être dans les... Et si ça perdure, je prends des traitements.
Bien sûr, évidemment.
Mais j'ai utilisé, moi, des techniques qui sont liées à l'auto-hypnose, qui consiste, la première des choses, c'est à ne pas rejeter la douleur ou ne pas suffoquer avec elle. C'est-à-dire de ne pas la laisser vous empêcher de respirer. Donc, je respire à l'intérieur de la douleur. La deuxième chose, c'est que je vais tout de suite prendre conscience que le reste de mon corps va bien. Parce que j'ai pas mal partout. Si vous demandez aux gens, ils ont mal dans des endroits spécifiques. Donc, de se rendre compte, de la remettre dans un contexte. Et le troisième point, et ça s'apprend, j'allais dire, c'est de partager la douleur.
Avec qui ?
Eh bien, moi, pendant toute la nuit, j'ai partagé avec mon matelas.
Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il allait parler de son épouse ou... Non.
Oui, alors là, elle serait moins contente, je pense, qu'elle m'écoute après. Mais toute l'idée, c'est de se dire, voilà, on peut, justement, par le biais de métaphores et de mettre son imaginaire a une capacité extraordinaire de potentialité qu'on n'explore pas assez.
Qu'est-ce que vous avez dit comment vous avez fait avec votre matelas ? Comment vous avez procédé ?
Eh bien, je me suis dit, il est temps d'être un peu moins égoïste et de t'en remettre un peu. Donc, je reste allongé, je ne me lève pas, je trouve la position qui est une position antalgique où je vois que ça va un peu mieux. Et à partir de ce moment-là, je laisse la douleur se dissoudre. C'est-à-dire, je n'ai qu'une idée, c'est tout le reste du corps qui va bien, j'en vois. Vous savez, on utilise beaucoup des métaphores de couleurs, par exemple. En hypnose, on va se dire, si mon reste du corps, la couleur qui me vient, c'est jaune, eh bien, je vais envoyer du jaune dans la couleur rouge, qui est souvent celle associée à la douleur, pour l'envahir. Et l'imaginaire joue un rôle fondamental. Dès lors, eh bien, on laisse le rouge se dissoudre dans l'oreiller, et ainsi de suite. Moi, la douleur a diminué juste en faisant ce processus-là, en entrant et en étant moins égoïste. Vous voyez, donc je...
Il était gentil avec son matelas. Lui, il avait mal à la fin, il parlait de matelas. Jimmy ?
Est-ce que ça peut être semblable un peu à ce qui est un peu tendance, notamment les exercices de pilates, de yoga ou de méditation ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la douleur dans la maladie ? Et si oui, dans quelle maladie on pourrait les utiliser ?
Alors, la première chose, c'est que des études ont montré pendant des années à l'hôpital, par exemple, quand des gens avaient des très fortes douleurs, on les immobilisait. Maintenant, on sait que c'est une ânerie, il faut arrêter de faire ça. Donc, la première chose, c'est réintégrer de la bonne fatigue dans votre vie. Il n'y a que très peu de cas, pour en avoir discuté avec beaucoup de rhumatologues, où on dit qu'il ne faut pas bouger. La première chose, c'est remettez-vous en mouvement, bougez, trouvez l'articulation.
C'est pas facile de bouger quand on a le corps qui souffre. Hein.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne personne pour vous accompagner. Encore une fois, le pilates et le yoga, c'est excellent, mais il faut trouver des bons profs de pilates et de yoga parce que ça peut être aussi source de danger. Moi, j'ai vu des profs de yoga qui mettent des gens sur la tête alors qu'ils ont une cervicalgie, ce qui est quand même une ânerie. Donc, il faut juste dire, je trouve la bonne personne et je réapprends à bouger et j'y vais très progressivement, là aussi. Et c'est aussi d'intégrer dans sa vie quotidienne. Moi, j'ai une pratique du yoga, mais j'ai adapté mes exercices du yoga
à mes
douleurs. Et puis, je ne vais pas forcément en faire tous les jours. J'en fais tous les deux jours et j'observe et j'ai trouvé l'ajustement. Mais ça veut dire qu'il faut se renouer avec son corps. Mon corps n'est pas mon ennemi, là aussi. C'est une chose fondamentale qu'il faut intégrer. Mon corps, c'est moi. Donc, de renouer avec son corps, de retrouver un peu de lien, va nous aider à entendre.
Jimmy ?
Est-ce que l'alimentation peut aussi nous aider ou c'est un peu un truc un peu trop tendance et qui ne sert pas à grand-chose ?
Alors, je vais vous citer un grand docteur qui s'appelle le docteur Jimmy Mohamed. J'ai lu un de ses tweets un jour qui disait une chose qui m'a paru claire et importante de rappeler. Il disait, c'est pas la peine de prendre des oxydants. On a tout ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir se nettoyer. Eh bien, quand je dis renouer avec son corps, c'est aussi être capable de sentir, et c'est là où l'hypnose, dans la forme écologique à laquelle j'invite les gens à renouer, c'est de se dire, comment est-ce que je sens ce que je suis en train de mettre dans mon corps ? C'est-à-dire, je ne me remplis pas en permanence. Vous voyez, quand on a une maladie inflammatoire, la médecine traditionnelle indienne, qui est la médecine ayurvédique, vous dit c'est pas la peine de manger énormément de sucre, ça va augmenter. Donc ça, voilà, donc c'est un point important. Surveillez votre alimentation. Voyez ce qui est sain pour vous. Et là, il y a des tonnes de livres et vos médecins sont là pour vous aider. Ça joue définitivement un rôle.
Pour terminer, est-ce que tous les conseils, notamment de méditation ou d'hypnose que vous venez un petit peu d'aborder avec nous, ça fonctionne vraiment? C'est-à-dire, nous, on a compris qu'avec vous, ça avait l'air de marcher, vous avez l'air tout à fait paisible et pourtant vous souffrez en ce moment, mais il y a des preuves que, par exemple, on arrive, grâce à ces méthodes-là, par exemple d'hypnose, à baisser la dose de médicaments chez des patients chroniques?
De plus en plus, dans le milieu hospitalier, il y a des cellules maintenant où les médecins pratiquent l'hypnose, notamment dans les centres de la douleur, pour aider les personnes. Je peux vous raconter une dernière histoire, si vous voulez. Il n'y a pas longtemps, je donnais une formation sur hypnose, intuition, perception. Et il y a une des personnes qui était là, qui était psychologue. Et donc, je racontais comment, à une personne, j'ai suggéré de partager sa douleur avec le pied de la table qui était à côté. Et donc, je mettais en scène la situation. Je disais, voilà, vous voyez, cette jambe-là, parce qu'elle avait mal à la jambe. Donc, je disais, donnez un peu de votre douleur à la jambe de la table. Et la personne qui était psychologue était là et elle me disait, moi je l'ai fait pendant ce temps-là, elle ne m'a rien dit, avec la table, pas le pied mais la table, parce qu'elle avait mal au dos. Et ça faisait 3 semaines qu'elle avait mal au dos, le médecin lui avait prescrit de la kiné, etc. La session d'après, elle est venue, elle nous a raconté à tout le monde, en disant, voilà, ben moi j'ai fait, alors moi je n'étais pas au courant.
Pendant qu'elle faisait le faisait ça, aussi. Ouais.
Qu'elle faisait l'exercice. Ouais. Elle a dit, le lendemain, la douleur avait disparu, j'ai arrêté la kiné. Donc, vous voyez, c'est à nouveau, c'est l'imaginaire là qui rentre en ligne de compte. On a un potentiel, c'est vraiment en cours d'étude.
De guérison en nous, quoi, hein, c'est ça.
Voilà, ça n'a pas marché à chaque fois.
De guérison, peut-être pas de guérison, on n'est pas contre les médicaments.
Moi, je parle de soulagement.
Merci beaucoup, Léonard Anthony, d'être venu sur notre plateau, nous faire du bien en cette période un peu angoissante d'ailleurs, surtout pour les gens qui doivent se battre au quotidien contre une maladie. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, Et si on apprenait vraiment à se reposer, chez Flammarion, merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le syndrome des jambes sans repos. Savez-vous à quoi sont dus ces picotements et ce besoin de mouvement des jambes, surtout la nuit? On fera le point, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du syndrome des jambes sans repos. Savez-vous quels sont les symptômes dont souffrent les personnes atteintes? À quoi ce syndrome est-il dû? Et surtout, comment ça se traite? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Des gens qui ont des problèmes circulatoires, qui s'arrêtent jamais de marcher, qui ont des varices ou ce genre de choses, non?
Peut-être un problème de circulation.
Des personnes qui peuvent ne jamais avoir les jambes immobiles, notamment quand ils dorment, ils ont les jambes qui bougent.
Elles sont très gonflées, il y a de la rétention d'eau, j'imagine. Des gens qui ont des douleurs dans les membres inférieurs.
Peut-être gonflées, peut-être avec des picotements, peut-être avec des douleurs, des rougeurs aussi peut-être. Visuellement gonflées, avec de l'œdème rouge, douloureuse.
Je pense que c'est plutôt lié au cerveau.
Des personnes qui travaillent souvent debout ou qui piétine. Alors, il y a peut-être des traitements médicamenteux. Après, peut-être que déjà mettre les jambes en station allongée, voire jambes surélevées avec peut-être des bas de contention.
Il faut faire des séances de kiné ou du massage pour essayer d'éliminer les fluides.
Jimmy, alors c'est quoi le syndrome des jambes sans repos? Quels sont les symptômes précisément? On dit sans repos, on comprend que ça bouge, mais...
Exactement, ouais. C'est une pathologie chronique qui est caractérisée par le besoin urgent et irrésistible de bouger ses jambes associées à des sensations désagréables, aussi au niveau des membres inférieurs. Alors quand on dit sensations désagréables, on appelle ça les impatiences et ça peut être des picotements, des fourmillements, des tiraillements ou parfois une impression de décharge électrique et même des douleurs. Mmh. Souvent, ça touche les deux jambes, donc de façon bilatérale, et elles sont calmées, les symptômes, ils sont calmés par le mouvement des jambes, justement, d'où l'histoire.
Vous vous levez, vous marchez, et ça va mieux en fait.
C'est l'histoire de jambes sans repos.
D'accord, et je crois que les gens qui souffrent de ce syndrome, ils sont surtout gênés la nuit. Hein.
Ouais, plutôt la nuit, le soir, en position couchée, au moment où ils vont dormir, ou au cours du sommeil, parfois ça peut les réveiller, ou ça peut survenir en journée, lorsqu'ils doivent être immobilisés de façon prolongée.
Pendant une réunion, dans ce studio, on a arrêté un moment, ça peut survenir si on avait ce problème-là. Est-ce que c'est très fréquent comme problème, Jimmy?
Alors oui, 8,5% des Français sont touchés et 2% présentent des symptômes plusieurs fois par semaine. Ça touche plutôt les femmes et l'âge est souvent un peu tardif. Ça touche rarement l'adulte jeune.
Alors ça a l'air quand même particulièrement embêtant. C'est dû à quoi? Est-ce qu'on connaît la cause d'ailleurs?
On ne connaît pas très bien les mécanismes. Ils sont assez mystérieux. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'une insuffisance en fer, une carence en fer avec ou sans anémie peut entraîner des symptômes. Mmh. Et aussi un problème au niveau de la dopamine. On s'est aussi amusé à faire des IRM à des personnes qui avaient des syndromes de jambes sans repos. On s'est rendu compte qu'ils avaient un tissu et un cortex cérébral moins épais que les autres. Mmh. Et puis la zone qui relie les fibres nerveuses qui relient les zones du cerveau d'un côté et de l'autre sont aussi moins présentes.
Donc c'est une piste aussi.
Donc,
ouais.
Il y a des formes familiales et certaines maladies, notamment l'insuffisance rénale chronique, le diabète, l'hypothyroïdie, la maladie de Parkinson ou encore la grossesse peuvent être impliquées dans cette maladie.
Bon, est-ce que ça se traite? Alors rapidement, on n'a plus vraiment le temps, mais on fera peut-être une émission sur le sujet dans quelques temps. Comment on peut soigner ça?
Alors dans les formes légères, on n'a pas besoin de prendre de traitement, il suffit d'appliquer quelques gestes simples pour essayer d'atténuer les symptômes. En revanche, dans les formes sévères, on peut proposer des traitements. Donc, si vous manquez de fer, on vous donne un traitement
base de fer, bien sûr.
Et puis, la dopamine, vu que vous manquez de dopamine, on peut vous donner un médicament de la famille qu'on appelle des agonistes dopaminergiques. En revanche, ces traitements ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et ne sont pas un traitement curateur. Ils permettent simplement de soulager les symptômes, mais c'est déjà un début de piste.
Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Europe. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des premières peines de cœur chez nos ados. Comment les aider à surmonter ça? Elle nous dira tout. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, qui ne d'ailleurs raterait cette chronique pour rien au monde.
Jamais, hein,
voilà.
Oui.
Et donc, elle arrive à l'instant pour faire plaisir au docteur Jimmy Mohamed. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à la question, enfin vous allez répondre surtout à la question, parce que nous, on n'y connaît rien avec Jimmy, on est là pour vous écouter.
Votre expérience, Mélanie,
sagement.
Ne vous sous-estimez pas, à mon avis.
On va répondre à la question de Sonia. Sonia, elle a 44 ans, je vous la lis. Ma fille de 16 ans a eu sa première peine de cœur dernièrement. Elle l'était avec son petit copain depuis 5 mois. À mes yeux, rien de bien méchant. Ça me rappelle même des souvenirs. Pourtant, elle semble très affectée. Je ne sais pas comment réagir. Pouvez-vous m'aider? Ah, les premiers chagrins d'amour, Catherine. Moi, rien que d'y penser comme ça, c'est vrai que ça me fait un petit pincement au cœur. On a l'impression que c'est vraiment les plus douloureux à 16 ans. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vraiment ceux qui font le plus mal?
Bien sûr qu'ils font mal parce qu'on part dans l'amour avec une idée d'absolu. Il a fallu, vous imaginez? Il faut une énergie incroyable pour passer de « je suis le bébé de mes parents » à « je vais aimer ailleurs ».
Quelqu'un d'autre.
Et
ouais.
En plus, je vais le témoigner. Ce n'est pas simplement dans ma tête. Je vais le témoigner par un baiser ou je vais le témoigner si on fait l'amour,
bien
etc.
Sûr.
Donc, c'est un passage à l'acte qui demande énormément d'énergie, qui se solde par une fin. Et du coup, évidemment, le sentiment d'avoir été trahi dans cet élan, voilà, comme vous dites, et surtout les femmes ont le sentiment de donner, notamment leur virginité, ou donner leur pudeur dans ce baiser échangé. Et donc, du coup, le sentiment d'une grande trahison, même si, évidemment, il ne s'agit pas de ça.
Jimmy, je vois que vous avez la larme à l'œil, vous pensez à votre
absolument
point.
Pas du
tout, il est
là.
Aucune émotion négative, ça ne lui rappelle rien.
Ça ne vous rappelle rien. Bon, alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez demander à Catherine?
Justement, est-ce que les hommes sont, enfin, en tout cas, les garçons sont autant touchés que les jeunes filles par ce syndrome du cœur brisé? Lors
qui sont tous aussi insensibles que Jimmy Mohamed.
Je crois qu'ils le sont, ça tout dépend qui arrête la relation. Alors souvent,
là, apparemment, la jeune fille s'est faite larguer, comme on dit.
Voilà.
Hein, c'est ça.
Souvent, les garçons entre eux disent « ouais, même pas mal », etc.
Et après, en réalité...
Voilà. Mais à partir du moment où ce n'est pas eux qui ont acté de la relation, c'est toujours douloureux. Toujours douloureux de
garçon
se prendre
fille,
une
ouais.
veste, comme certains disent. Parce que tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour avec un grand A. Éternel qui tout d'un coup se brise et laisse à penser que à partir de maintenant je vais consommer pour consommer ou à partir de maintenant je ne donnerai plus mon amour à partir de maintenant enfin des grandes résolutions qui heureusement ne tiennent pas beaucoup de temps.
Bien sûr.
Voilà.
Alors pour les parents comme Sonia qui sont témoins de la douleur de leur ado, est-ce qu'il faut s'en mêler ou pas d'ailleurs? Parce que c'est vrai que quand nos enfants commencent à nous raconter, moi le mien il a 10 ans, il commence à me raconter les premiers amours, on s'est tenu la main, c'est mignon, c'est machin. C'est vrai que nous aussi on savoure un peu, on a l'impression de revivre ces époques-là. Est-ce qu'on doit s'en mêler? Parce que là elle a l'air de souffrir sa jeune fille.
Alors d'abord, évidemment, que du point de vue des parents, c'est toujours moins grave que du point de vue de l'enfant, bien sûr, et à moins de se souvenir de sa propre enfance. Et on espère d'ailleurs finalement que les relations ne vont pas perdurer, parce que quand elles perdurent, qu'elles ont démarré aussi jeunes, évidemment qu'il va falloir énormément d'énergie pour alimenter la relation et ne pas la laisser enfantine pour qu'elle puisse grandir et mûrir. Donc c'est plutôt heureux quand les histoires s'arrêtent. Et puis c'est aussi heureux, et c'est ce qu'il faut pouvoir dire à son enfant, c'est de découvrir que justement tu fais l'expérience du désamour et ce qui va te permettre de voir que tu n'as pas besoin d'aimer ou d'être aimé pour grandir et tu aimeras à nouveau et tu n'es pas dépendant de cet amour de l'autre pour pouvoir t'émanciper. Et ça, c'est important. Donc, s'en mêler pour accompagner, mais pas s'en mêler pour savoir ce qui s'y passe et revivre sa propre enfance.
Jimmy, il a une énorme peine de cœur à 8 ans, il m'en parlait la dernière fois, mais il s'en est bien remis. Hein. Aujourd'hui, il est avec son épouse, tout va bien.
Et là, tout va bien, marié, 3 enfants et heureux. Mais justement, mes enfants sont petits. Le jour où cela arrive, est-ce que je pourrais dire une de perdue, 10 de retrouvée ? Au contraire, ils ne sont pas du tout réceptifs
à ce genre.
C'est une très mauvaise idée, ça. T'as 16 ans, tu vas t'en remettre, la vie est longue.
Regarde, moi, je m'en suis sortie. On se prend dans un exemple ou pas ?
Vous imaginez avec 10 comment ils vont être dans la difficulté d'assumer 10 de retrouvée.
C'est vrai que ça fait un sacré nom. Mais voilà, leur dire, allez, c'est bon, t'es jeune, tu vas t'en remettre. Il ne faut pas minimiser sa peine, être dans l'empathie et puis finalement en faire des tonnes.
Oui, non, il faut pas en faire des tonnes, c'est pas grave. Évidemment, c'est douloureux et connaître la douleur est aussi une expérience merveilleuse parce que encore une fois, il n'est pas question de chercher à ce que nos enfants vivent des moments douloureux, quels qu'ils soient. Mais à toutes ces occasions sont bonnes pour découvrir l'aptitude à dépasser la douleur, l'aptitude à dépasser la frustration, l'aptitude à reconquérir le monde. Donc c'est pas 10 de retrouver, mais c'est autant de possibles devant soi, et notamment de possibles pour rectifier aussi ce qu'on n'a pas compris, peut-être qu'on n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Donc se dire qu'il y a des possibilités encore.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée au tabagisme pendant la grossesse. Alors pas question chez nous de culpabiliser les femmes enceintes qui fument, mais on va essayer de faire un tour des méthodes sûres et efficaces pour les aider à arrêter. Pour le moment, je cède la place à Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, pas besoin de vous demander de rester avec nous, vous allez rester, car c'est le beau Nicolas Duvauchel qui est notre invité aujourd'hui. Il est à l'affiche du prochain film de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, qui sort mercredi. Très beau film. Et en plus, vous allez découvrir un Nicolas Duvauchel un peu différent avec nous, je pense.
J'ai hâte. Alors, je vais rester, évidemment. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous souhaite une belle émission. Et vous, restez sur Europe 1.